Venez, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Une histoire qui nous conduiront, au fil des mois, à travers le Sud. Notre Sud, ce pays où il fait souvent si bon vivre, entre l'Atlantique et la Méditerranée, entre les Pyrénées et une ligne vague, qui se situe au nord de l'Aubrac, mais pas trop au nord quand même, il faut pas exagérer. Chacune d'elles aura un thème et nous allons traîner le long des rives du canal du Midi qui prend parfois un aspect un peu inquiétant et devrait plutôt s'appeler Canal du Soir. Canal du Soir, une nouvelle écrite et lue par Bernard Bonne. Quand les habitants du quartier trouvèrent dans leur courrier la lettre de la mairie qui annonçait que le canal du Midi, entre la gare Matabiau et la halle au Grain, serait curé et nettoyé, cela fut accueilli par la majorité des gens comme une bénédiction. Le canal était devenu, avec le temps et la lente montée de la température en ville, un cloaque, une bouillie écœurante, une infection verdâtre autour de laquelle rongeurs et moustiques se vautraient et copulaient avec délectation. Nettoyage, récurage, dératisation. Ces mots sans cesse répétés et repris par les communicants municipaux officiels résonnaient aux oreilles des riverains comme une douce mélopée. Le fait de ne pas pouvoir circuler le long des rives, ni de pouvoir s'y garer, semblait ne déranger personne. Et même s'il fut annoncé que les travaux auraient lieu la nuit, et qu'ils seraient très bruyants, cette gêne potentielle laissa tout le monde quoi ? Tout le monde, sauf moi. Parce que moi, je savais qu'entre Matabiau et la halle au Grain, dans le canal, se trouvait le cadavre de ma femme. En morceaux, bien sûr, et décomposé depuis longtemps, mais la perspective qu'on aille fouiller là-dedans ne me disait rien qui vaille. Mais que pouvais-je faire ? Sinon croire en ma bonne étoile, comme j'y avais toujours cru. Pour échapper à la police, un assassin doit fermer sa gueule en toutes occasions et avoir de la chance. Fermer ma gueule, je faisais ça très bien depuis toujours. Quant à la chance, ma modeste expérience en matière d'homicide m'incitait à penser qu'il fallait en faire le moins possible, juste essayer de se tenir un peu au fait des événements de manière à pouvoir préparer la conduite à suivre, au cas où. Un vieil adage, chez les crapules, affirme que le hasard sert mieux les silencieuses et les sournois que les prétentieuses et les matamores. À vrai dire, je n'aurais pas été aussi inquiet si je n'avais pas bêtement oublié, lorsque j'avais jeté, membre après membre, le corps de Véronique dans le canal, de lui ôter l'alliance que je lui avais offerte pour notre mariage. Et, à l'intérieur de l'anneau, il y avait écrit « Véronique et Bruno, pour toujours, à jamais ». Maintenant, devinez qui est Bruno ?
Je t'aime encore, et pourquoi je l'ignore, mes larmes
Pour me rassurer et rester fidèle à mes principes, je pris la décision d'aller promener Néron, mon chien, cadeau de Véronique, toutes les nuits le long du canal, par période d'une demi-heure, ce qui me permettait d'avoir une idée de ce qui s'y passait et de repérer toute arrivée de la police. Néron était un fox terrier qui avait hérité de toutes les qualités de mon ex-femme. Désobéissant, caractériel, imprévisible et imbu de lui-même. Il considérait que le monde entier lui appartenait et allait fourrer sa truffe partout, sans tenir compte des dangers et des interdictions. En l'occurrence, il devenait un allié idéal. La machine qui draguait le canal ressemblait à une gigantesque sauterelle de métal. Du haut de ses 8 mètres, elle avançait sur ses pattes d'acier et plongeait sa gueule d'ombre dans le cloaque pour avaler des tonnes de boue, de vases et d'algues pourrissantes. Elle se vidait à l'arrière, à l'extrémité d'un anus interminable, tandis que ses intestins broyaient, filtraient et dissolvaient dans des gargouillements monstrueux la nourriture immonde qu'elle ingérait. 4 projecteurs, placés au sommet de sa tête, au bout de bras verticaux, lui ouvraient le chemin et affublaient ce squelette infernal de regards auxquels rien ne semblait pouvoir échapper. Aux manettes de l'engin se tenait une femme. Elle trônait au sommet du dieu de métal, dans une cabine en forme d'œuf nimbée d'une lueur jaune. Quand je la vis, la première fois, je pensais qu'elle était à la fois la fille, la mère et le cerveau de la sauterelle géante. De fait, pour l'avoir entendue quelquefois, au hasard de mes allées et venues nocturnes, parler aux ouvriers du chantier, je lui trouvais de nombreuses similitudes avec la dragueuse. Elle était bruyante, vulgaire, autoritaire et pleine d'une confiance aveugle dans sa puissance. Précédée de Néron, que les odeurs de pourriture rendaient plus frétillant encore que d'ordinaire, j'allais donc chaque nuit de 11 à 12, puis de 2 à 3, puis de 5 à 6, vagabonder le long des quais. Aux ouvriers, qui finirent par me reconnaître et par s'étonner de mes visites régulières, j'expliquais que je souffrais d'insomnie chronique, tout comme mon chien d'ailleurs, et que seules des promenades nocturnes nous permettaient de trouver un peu de repos. Je finissais toujours mes rondes par une inspection discrète et attentive de ce qui sortait de l'anus du monstre, un mélange fétide de vase et de sable qui semblait extraordinairement lourd et qui s'écrasait, dans un bruit écœurant, au fond de containers posés sur des camions. Une fois leur cuve remplie, les camions partaient et la nuit les engloutissait, tout comme elle engloutissait les restes décomposés de Véronique. Les ouvriers ne savaient pas où ils allaient, mais ils pensaient que leur chargement finissait dans les sablières et les déchetteries de la région où, ensuite, ils se mélangeaient à d'autres gravats, d'autres ordures, puis étaient recyclés aux 4 coins du département.
Et ça la rend du folle, elle lui donne du coup. Coup de bâton, coup de balle et coup de bambou. C'est continu comme ça, lui cassera le cou. Mais malgré tout, le doudou est amoureux de la bébé. Bébé si douce avec doudou. Entre deux coups de balai, le barbatoubé arrive et t'a observé. Il a eu beau crier, non rien n'a changé. Fatigué de rester dans les coulisses, il s'est engagé dans la police. C'est aujourd'hui le baba est amoureux de sa patrie. C'était bien ce qu'il voulait, être gardien de la paix. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Le monde est fou, 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 voyez-vous. J'ai envoyé du pain pour sauver les enfants qui meurent de faim dans le petit écran. Quelle surprise en voyant qu'un militaire s'envoyait tout cru mon sandwich au brillé. Notre pays est amoureux de ses bébés. Il envoie des caisses entières de balles de revolver. Le monde est fou, 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 voyez-vous. 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 Thank you.
attendre que le monde soit mis en bière. Car voyez-vous, il suffit d'être amoureux de la vie. Si vous le dites avec des fleurs, évitez les soucis.
Ces informations dépassaient mes espérances. Elles me fournissaient la garantie absolue qu'on ne retrouverait jamais le corps de Véronique, pas plus que son alliance. L'idée que cette mégère fasse à jamais partie de mon passé, Néron excepté, me remplit d'une douce euphorie. Le fox terrier commença même à me devenir sympathique et je pris du plaisir à discuter de temps en temps avec les ouvriers du chantier de dragage. Je me rendis compte alors que je n'avais quasiment parlé à personne depuis la fin de l'enquête et que les dernières conversations que j'avais eues, mais le terme « conversation » est-il ici bien adapté, se limitaient à de pesants face-à-face avec des inspecteurs patibulaires. Heureusement, ma méthode, empreinte de patience et d'hypocrisie silencieuse, avait porté ses fruits. La police brise ceux qui résistent, mais se délite devant ceux qui la craignent. Ceux qui plient devant sa force, ceux qui se font humbles, apeurés, respectueux. Elle cherche davantage à asseoir sa domination qu'à chercher les coupables. Une fois qu'on a compris ça, on peut se permettre presque tout. Les travaux prirent fin en juillet et pendant quelques semaines, le canal prit une teinte claire qu'on ne lui avait jamais connue. Néron et moi-même avions pris goût à nos promenades nocturnes et nous revenions souvent cheminer sur les quais. Les péniches avaient retrouvé leurs attaches et, souvent, de leurs hubots éclairés, montaient de la musique, air manouche ou espagnol, qui donnait à la nuit toulousaine un parfum exotique et gai. Parfois, je m'asseyais près des bateaux et j'écoutais les chansons qu'ils exhalaient, comme de suaves parfums de fleurs de tilleul. Je prenais la tête de Néron entre mes mains et je le regardais dans les yeux. Il me répondait avec confiance, sans inquiétude. Jamais je n'avais été aussi heureux. Une nuit, vers la fin août, nous trouvâmes une grosse femme assise sur le banc où nous avions l'habitude de faire une pause. Sur le pont d'une péniche proche, une radio diffusait la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Mécontents de cette intrusion dans nos habitudes nocturnes, Néron et moi, nous passions notre chemin pour nous asseoir sur un banc plus lointain quand la femme me dit, tandis que j'arrivais à sa hauteur, « Bonsoir Bruno !» Ces mots me pétrifièrent. Ils avaient été dits avec un accent de méchanceté sournoise et sur un ton plein de suffisance, le ton qu'employait la police pour me dire « Cher monsieur, nous avons de nouveaux éléments ». De plus, la voix de la femme était remplie d'une vulgarité satisfaite, assumée, fière d'elle-même. Je me tournai vers la masse sombre qui venait de me parler. Je ne pus voir son visage, mais reconnus aussitôt la conductrice de l'engin qui avait dragué le canal. La mère, ou la fille, ou le cerveau du monstre. Asseyez-vous près de moi, Bruno, je vous en prie.
Un peu de beauté plastique.
La nuance d'intimité qu'elle mettait dans sa voix me glaça sur place. Je m'approchai d'elle, pourtant. Que pouvais-je faire d'autre? Et écoutez ce qu'elle voulait me dire. « Vous préférez rester debout? À votre aise? Moi, je suis bien sur ce banc. » Ah, on a fait du bon boulot, non? C'est devenu agréable de se promener ici. Je vois avec plaisir que votre chien et vous avez gardé vos habitudes. » Je grommelais un vague « oui » et la laissais poursuivre. « Vous savez que draguer des canaux en ville est un travail bien payé? Non, bien sûr, vous, vous êtes un rentier. Eh bien oui, ça vaut le coup. Pas avec le salaire, bien sûr, mais avec les à côté. Tout ce qu'on extrait du canal vous appartient. Parfaitement. C'est un accord tacite entre maître d'œuvre et maître d'ouvrage. On évite d'en parler aux ouvriers temporaires. Ça attiserait trop les convoitises. Alors, on passe tout le contenu des chargements au filtre. La terre tremblait sous mes pieds. Au filtre et au détecteur de métal. Vous n'avez pas idée du nombre de pièces de monnaie qui finissent dans ces canaux. La ville et ses maisons semblaient glisser devant moi vers un gouffre. Des pièces de partout. Des euros, bien sûr, mais aussi des francs. Oui, des anciens francs. Des marques, des pesetas, de la monnaie du monde entier que les collectionneurs viennent nous acheter. Mais il n'y a pas que des pièces. On trouve aussi des bijoux, des colliers, des bracelets, des bagues, de très belles bagues. Incroyable, non? Parfois même, on trouve... Le monde avait disparu. Plus rien ne m'y raccrochait. Je tombais sur le banc. Elle continuait à parler avec cet air suffisant et vulgaire qui me donnait la nausée. Parfois même, on trouve... Le jackpot! Et moi, le jackpot, je l'ai trouvé grâce à vous. Une belle alliance, en or, avec une inscription tellement mignonne à l'intérieur. Véronique et Bruno, pour toujours. Taisez-vous! Mais non, je trouve ça si attendrissant. Véronique et Bruno, pour toujours, à jamais. Je n'ai pas eu de mal à retrouver Bruno. La dépêche du midi m'a fourni des pages d'archives sur la disparition mystérieuse de votre femme, la jeune, charmante et dépensière Véronique. Apparemment, il y a encore quelques policiers qui gardent une dent contre vous, si j'ai bien compris. Taisez-vous, j'ai compris ce que vous voulez. Combien? Combien? Oh Bruno, mon chéri, tu poses la mauvaise question. Je pensais que j'avais atteint le fond de l'horreur, mais ce glissement reptilien du vouvoiement vers le tutoiement, ainsi que la toile d'intimité qu'elle tissait avec lenteur autour de moi, m'enfoncèrent vers de nouveaux abîmes. Je bredouillais « Quoi ?» d'un air idiot, et elle me répondit, calme et sûre de son fait, « Non, ce n'est pas « quoi » ou « combien » qu'il faut demander, c'est « quand ?» Quand? Mais comment, quand et quoi quand? Samedi prochain, dans la mairie du village où je suis né. Ne sois pas taquin, ne me demande pas en quelle année. Les bancs sont déjà envoyés. Rassure-toi, ce sera très intime. Je sais que tu n'as pas, que tu n'as plus de famille. Quant à moi, à part deux tantes et un cousin, c'est le désert. J'ai aussi réservé le restaurant. Je te préviens que ce sera un peu cher. Je connais ton côté pingre, le journal en a parlé, et je sais que Véronique était dépensière. Je dois t'avouer que j'aime bien me faire plaisir, moi aussi. Mais tu as les moyens, et tu ne t'amuseras pas à me faire ce que tu as fait à ta première femme. Ce serait trop risqué. Je ne pouvais ni bouger, ni respirer, ni parler. Les chaînes qu'elle enroulait autour de moi étaient plus solides que celles que la police aurait pu nouer. Je la regardais. Elle me sembla plus énorme et visqueuse que jamais, plus forte et plus sûre d'elle aussi. « Oh, tu as l'air abattu, mon chéri. La perspective de toutes ces dépenses, sans doute. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Tu ne seras pas obligé d'acheter une alliance pour moi. Je m'appelle Véronique, moi aussi. Le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas ?